Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Héloïse. Certains d'entre vous connaissent sans doute déjà Héloïse, qui est venue ici il y a un an à peu près, nous parler d'une expérience pédagogique et humanitaire qu'elle venait de faire en Afrique, en Tanzanie. Mais elle était à ce moment-là déjà en partance pour une autre destination, le Canada, qu'elle devait rejoindre pour continuer ses études. Aujourd'hui, elle est de retour au pays pour passer ses vacances et elle a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Héloïse, merci beaucoup d'être là encore une fois. Comment s'est passée votre adaptation au Canada, ce grand pays très froid en hiver, mais qui peut être chaleureux aussi, qui est si différent du nôtre?
Alors déjà, bonjour Jean-François. Et ensuite, effectivement, je suis arrivée au Canada, à Montréal, au mois de janvier, donc en plein hiver par définition. L'adaptation au pays s'est fait relativement bien, étant donné que la culture est proche de notre culture européenne. Donc sur ce plan-là, ça n'a pas posé énormément de problèmes. Et bien sûr, une grande question qui revient beaucoup, c'est celle du climat. Les températures sont beaucoup plus extrêmes que chez nous, c'est sûr. On a atteint facilement les moins 30 degrés. Mais la différence avec ici, c'est qu'au Canada, il y a un climat beaucoup plus sec. Le froid est beaucoup plus supportable qu'il est ici, alors que c'est beaucoup plus humide. Et on est également équipé de manière beaucoup plus performante au Canada. Donc franchement, c'est vraiment vivable.
Mais alors, vous vivez au Canada, si ma mémoire est bonne, à Montréal?
Exactement, à Montréal.
Et alors, qu'est-ce que ça fait de vivre dans une ville qui a presque 2 millions d'habitants en venant de Périgueux?
C'est une grande ville, effectivement, mais comme on aurait pu retrouver par exemple à Paris ou dans une grande ville américaine, Montréal, c'est vraiment, je pense, le parfait milieu entre New York et l'Europe. Au niveau architectural, au niveau des gens, c'est vraiment une ville qui est cosmopolite, c'est une grande ville, mais les transports communs sont vraiment très bien développés, donc ça pose pas vraiment de problème pour se déplacer. Et en ce qui concerne juste les gens, le fait que ce soit une grande ville, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement touchée, ça, d'un point de vue social.
Non. Vous êtes adapté facilement à la grande ville. Mais alors, vous avez abordé la question, évoqué la question du cosmopolitisme de la société canadienne, on va y revenir. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu, que vous parliez un peu à nos auditeurs de vos études. Où en êtes-vous? Pouvez-vous leur rappeler ce que vous faites?
Donc je suis à Polytechnique Montréal et je rentre en équivalence de la deuxième, troisième année vu que j'étais avant en Suisse. Et donc c'est en ingénierie mécanique avec probablement par la suite une possibilité pour moi de travailler dans le domaine avec les drones, la robotique et ainsi que toutes les machines qui vont servir ensuite pour les médecins durant les opérations, les chirurgies pour aider.
Alors ça, c'est très pointu. Hein.
C'est pointu dans le domaine de la robotique, oui.
Et alors, ça se passe bien? Vous êtes satisfaite de Polytechnique Montréal comparé à Polytechnique Lausanne?
Oui, déjà pour plusieurs raisons. Les effectifs, de manière générale, sont réduits. On est parfois en amphi de 350 ou 400 personnes, mais on est davantage en classe de entre 30 et 60 personnes. Donc ça paraît déjà plus humain, on a davantage de contact avec les profs. Ensuite, on est beaucoup plus proche des professeurs, étant donné que c'est vraiment le principe un peu américain, également canadien, qui fait qu'on doit être très proche des professeurs, qu'on peut vraiment leur parler, qu'on est très ouvert, qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre les élèves et les professeurs. Et il y a également des cours de psychologie qui sont obligatoires pour toutes les sections de toute l'école, alors que ce n'est pas exactement notre domaine, la psychologie, l'ingénierie, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Ah oui, et quelle est la finalité de ces cours de psychologie?
Pour pouvoir justement travailler en équipe, vu que c'est le principe même des ingénieurs, travailler en équipe, et ils se sont aperçus que les ingénieurs pouvaient être peut-être très bons en mathématiques ou en physique ou dans les domaines scientifiques, mais qui manquaient d'une dimension sociale. Donc on a maintenant des cours de psychologie, des cours pour travailler davantage en équipe.
Alors, Ben, on est obligé de revenir tout de suite sur cette question du cosmopolitisme. Est-ce que le cosmopolitisme de la société canadienne, il se ressent dans une école d'ingénieurs comme celle-ci ?
On est à environ 10 000 étudiants, dont 150 nationalités différentes dans l'école. Donc, fatalement, le cosmopolitisme se ressent énormément. Et peut-être du fait qu'on est jeune, qu'on vient de partout, qu'en définitive, on est tous des étrangers du monde entier et que c'est pas encore chez nous, on doit prendre un peu le temps de se faire à ce nouvel environnement. Du coup, les gens sont tous extrêmement ouverts. Ils veulent vraiment apprendre des autres, ils veulent apprendre d'autres cultures. Donc oui, ça se ressent énormément, mais ça fait vraiment beaucoup de bien.
Alors, toute chose égale d'ailleurs, s'agissant de la population des pays d'où viennent ces étudiants, quels sont les pays dominants, les pays fournisseurs d'étudiants les plus importants à vos yeux ?
La France. La France, il y a énormément de Français, il y a beaucoup de Français.
Alors ça, c'est à cause du langage ou bien c'est à cause de...
Le langage aide beaucoup.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce seraient les Indiens, par exemple, ou les...
Je crois plutôt que c'est une fuite des gens de la France, tout simplement, qui ne veulent plus vivre en France, qui ont envie de quelque chose de nouveau, d'un pays plus ouvert, avec une mentalité plus ouverte, plus jeune. Donc c'est vraiment ce qui en ressort, du moins avec les personnes dont je parle. Donc oui, beaucoup de Français, bien sûr des gens qui sont eux-mêmes de Montréal ou du Québec, beaucoup de gens qui viennent de Québec, qui viennent à Montréal, et après beaucoup des pays maghrébins. Donc beaucoup de Marocains, des Tunisiens, un peu d'Algériens, un peu moins, et beaucoup des pays d'Europe qui parlent français, comme la Belgique par exemple.
La féminisation des étudiants, des futurs ingénieurs, est-ce qu'il y aura autant d'ingénieureux que d'ingénieurs ?
On l'espère,
sinon
on l'espère
plus.
Beaucoup, mais pour l'instant, dans l'école, on est à peu près à 18-20% de filles pour le reste de garçons.
Ah oui,
donc,
ah oui. Il y a un tel déséquilibre.
Oui, encore beaucoup masculin, mais on essaye vraiment de changer. Il y a beaucoup d'associations, dont une dont je fais partie, qui est vraiment une association justement pour promouvoir les sciences et l'ingénierie chez les femmes, notamment dans les écoles primaires, maternelles, non, primaires, collèges, et lycée, de manière à ce qu'on ait davantage justement de filles, mais il y a encore un peu de chemin à faire pour qu'on soit à égalité.
Mais vous êtes en route. Et la sélection est sévère ?
Pour entrer, alors on dit toujours que pour rentrer, c'est pas extrêmement compliqué. En Suisse, il fallait avoir la mention très bien au bac scientifique, option mathématiques. Et dans cette école-là, il faut avoir 12 durant tout le lycée et avoir 12 ou plus justement au bac. Mais rentrer dans l'école n'est pas extrêmement difficile, que ce soit en Suisse ou que ce soit ici. C'est plutôt rester dans l'école qui est beaucoup plus difficile. Si on n'a pas les notes qui suffisent, on peut rapidement être éjecté.
Donc il y a une sélection interne qui est
importante, oui.
Merci beaucoup de nous avoir ouvert ces horizons sur... votre futur professionnel tellement pointu. Et quand on est étudiant, ben on a quand même à affronter la vie quotidienne. Alors votre vie quotidienne au Canada, comment elle se passe ? Comment elle s'est passée ? Où habitez-vous ? Qui fréquentez-vous ? Voilà.
Donc j'ai été dans 3 appartements différents. J'ai vécu dans les 2 premiers seuls. Et maintenant, je suis dans une colocation avec 7 autres personnes. Une Cubaine, une fille de Tahiti, une d'Équateur, un garçon qui vient du Cameroun, une fille qui vient de Belgique et le dernier qui vient de Paris. Donc très cosmopolite, même à l'intérieur de la maison. Et en dessous, on a une famille qui vient moitié Martinique, moitié Guadeloupe. Donc c'est vraiment un grand échange de cultures. Donc c'est principalement les gens avec lesquels je passe le plus de temps. Ensuite, il y a les gens de l'école qui sont à côté de ça.
Vos colocataires, à l'exception de la Cubaine, ce sont des francophones.
Ce sont exactement des francophones. Et la Cubaine, on parlait du coup anglais avec elle.
Et alors, ça se passe bien ?
Ça se passe extrêmement bien. Et on s'amuse beaucoup, on passe énormément de temps ensemble. Chacun apporte beaucoup à l'autre, vu qu'on vient d'horizons différents et qu'on fait tous des choses complètement différentes. Je suis la seule, par exemple, dans le domaine scientifique. Donc, on vient tous de domaines extrêmement différents, donc on s'apporte énormément de choses. Et on construit une vie de famille, une vie familiale à l'intérieur de la colocation, en cuisinant les uns pour les autres, en étant là, présents les uns pour les autres, en aidant pour les petites choses du quotidien, que ce soit les courses ou d'autres choses.
Donc, oui, vous avez une cuisine communautaire.
Exactement.
Mais alors, vous cohabitez avec la famille de la maison ou Vous êtes complètement indépendant.
Il y a 3 étages dans la maison. Moi, je suis complètement indépendante au premier. La famille occupe tout le 2e étage. Et en 3e étage, il y a 2 colocations. Donc, je passe énormément de temps au 3e étage avec les autres colocs, qui ont mon âge. Donc, en plus, c'est vraiment mes amis. Mais moi, je suis vraiment indépendante dans mon appartement en bas. Ça me permet d'avoir aussi ma tranquillité.
Alors, la vie à Montréal, vous nous avez dit qu'on pouvait se déplacer facilement avec les transports en commun. Vous avez quand même un petit peu de loisirs. Comment occupez-vous vos loisirs ? Qu'est-ce qu'il faut faire à Montréal ?
Ce qu'il faut faire à Montréal, il y a beaucoup de choses à faire à Montréal. Il y a tous les parcs, par exemple le jardin botanique, il y a la biosphère, il y a beaucoup d'endroits qui sont extrêmement beaux à voir d'un point de vue des paysages. Et quelque chose qui est extrêmement important également à Montréal, c'est la vie souterraine. Il y a des kilomètres et des kilomètres de vie souterraine qui sont en dessous du métro et dans lequel il y a des restaurants, il y a des magasins, il y a
Un peu comme à Tokyo, alors.
Exactement. Ouais. Et on se sert de ces souterrains en permanence en hiver quand il fait trop froid et aussi beaucoup l'été parce qu'il fait très chaud. Donc on peut passer des jours et des jours entiers en étant en souterrain et jamais ressortir à la lumière du jour et très bien vivre parce qu'il y a strictement tout ce dont on a besoin dans les souterrains.
Petit don, c'est pas bon pour le teint, ça. Est-ce que c'est pas un petit peu oppressant, cette vie de taupe ?
On pourrait croire ça, mais tout est tellement grand et tellement lumineux. Il y a même il y a un jardin aquatique qui est dans les souterrains. Il y a beaucoup de fontaines, il y a beaucoup de verdure, ce qui fait qu'on n'a pas tellement l'impression d'être enfermé, d'être vraiment sous terre. On dirait simplement qu'on est dans un immense centre commercial, mais qui pourrait tout aussi bien être dehors. On n'aurait pas l'impression qu'il est particulièrement sous terre. Donc ça donne pas du tout cette impression d'oppression en fait.
Et alors les espaces sont suffisamment spacieux, grands.
Oui, c'est très très grand.
Alors tout ça a été creusé dans quel genre de matériel c'est...
J'ai envie de dire que c'est, à mon avis, les mêmes matériaux que les maisons, que tout est en béton, mais il y a aussi donc de l'acier, il y a du verre.
Le Canada, c'est quand même un vieux bouclier hercynien. C'est du granit, hein, souvent. C'est pas quelque chose qui se creuse à la petite cuillère.
Je sais pas, honnêtement, comment est-ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, ça s'étend sur des kilomètres carrés, donc ils sont sortis.
Et alors, quand vous êtes là dans les jardins souterrains, auprès des jets d'eau, vous êtes à quelle profondeur ?
On est soit en dessous du métro, soit à la même profondeur que le métro, parce qu'il y a des accès qui nous permettent de rentrer et de sortir facilement. Donc 10-15 mètres de profondeur.
C'est passionnant, ça. Je savais pas du tout... alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des distractions, les parcs, les promenades souterraines ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui soit...
Digne d'intérêt ?
Non seulement digne d'intérêt, mais particulièrement remarquable au Canada. Bien entendu, un petit peu plus tard, je vous demanderai si vous avez continué le cheval ou si vous l'avez complètement abandonné, mais j'imagine qu'il y a des chevaux au Canada.
Il y a des chevaux au Canada, mais ce qui est bien connu pour le Canada aussi, c'est tout ce qui est les sports d'hiver, donc oui. Le ski, le patinage, la motoneige. Il y a beaucoup de pistes de ski qui sont très proches de Montréal, avec lesquelles on peut accéder notamment en métro, donc on peut très facilement aller skier. Il y a beaucoup de patinoires également. Il y en a à peu près 3 rien qu'à Montréal, sans sortir de Montréal. La motoneige, qu'on peut également accéder relativement facilement par les transports en commun. Donc beaucoup de sports d'hiver par définition qui sont développés, sans parler du hockey, de tous les matchs de hockey qu'il y a à Montréal.
Oui, ça,
ça, on en entend beaucoup parler.
Oui, oui. Alors, vous avez le temps de faire un peu de sport, de ces sports d'hiver si caractéristiques ? Allergique à ça.
Je suis pas du tout allergique à ça. J'ai pas encore vraiment pris le temps pour faire ça parce que je venais d'arriver, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais pour le prochain hiver qui vient, vu que maintenant je suis avec mes collègues avec lesquels je m'entends très bien et qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent aller skier, qui veulent partir en sport d'hiver, je partirai très probablement avec eux. Donc on a des programmes chargés, c'est incontestable, mais on va trouver le temps. On va vraiment trouver le temps.
Vous avez une cuisine communautaire. Comment on se nourrit au Canada ? J'imagine que c'est très facile, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on a envie de manger particulièrement parce qu'il fait froid ou parce que c'est la mode ?
Je ne sais pas si c'est la mode, mais une grande spécialité du Canada, c'est la poutine. Donc, par définition, ce sont des frites, du fromage, et on peut rajouter une viande dedans, par exemple du porc ou de la saucisse ou des choses comme ça. C'est vraiment une spécialité et on en mange vraiment partout là-bas, on peut en trouver partout. D'autres spécialités...
Alors ça, c'est un plat complet, c'est un repas complet.
C'est un plat complet.
Vraiment, qui vous permet d'affronter les températures extrêmes.
Oui, ça c'est sûr, c'est assez nourrissant, donc ça, on en mange une, on est bien pour l'hiver, donc...
La poutine, et puis
quoi d'autre
Le steak d'élan.
Oui, en soi, le Canada est de plus en plus un pays qui essaye de protéger les animaux, donc notamment ces animaux qui sont parfois un peu fragiles, notamment dans l'hiver, il y en a de moins en moins, donc on essaie vraiment de les protéger. Donc ça va être davantage des animaux comme on peut avoir dans les pays européens, donc le porc, le bœuf, des choses comme ça.
Oui, donc on est menacé d'être inondé bientôt si on signe de cet état.
Exactement.
Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu du reste du pays ? Est-ce que vous avez eu le temps de vous promener ou pas du tout ? Est-ce que vous avez des projets ?
J'ai pas encore eu le temps, mais j'ai déjà eu l'occasion par le passé de visiter un peu le Canada, donc je connais un peu, et j'ai effectivement des projets d'y aller d'ici à ce que je rentre. Enfin, quand je rentrerai, je trouverai le temps, pareil, des week-ends pour partir avec d'autres colocs ou des amis de manière à voyager, notamment à Ottawa, à Québec. Québec, qui est réputé pour être une très belle ville, d'être un peu une caricature, mais... Pourquoi ? Je ne sais pas exactement. Apparemment, tout est vraiment mignon, avec beaucoup de fleurs.
Oui. Alors, il y a des quartiers anciens à Québec qui sont dignes d'intérêt, oui.
Exactement. Ouais. Donc ça, Ottawa. Et ensuite, bien sûr, New York, qui n'est pas très loin. Beaucoup de gens font l'aller-retour New York en un week-end, donc je le ferai très probablement également.
Et, j'irai voir les chutes du Niagara.
Déjà vu deux fois, mais j'y penserai.
Et alors le reste du Canada vous attire pas du tout, ou bien vous connaissez déjà, vous connaissez l'Ouest
C'est au contraire.
Comment voyez le Québec par rapport au reste du Canada ? Bien sûr, il y a des régions dont on sait qu'elles sont complètement différentes.
Complètement différentes. Une région dans laquelle je voudrais vraiment aller vivre, et c'est pour ça que le Québec, pour moi, est une seule première étape. Je voudrais vraiment aller vivre au niveau de Vancouver, donc complètement, complètement à l'Ouest. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le Québec. Ici, au Québec, le français est quelque chose de très important. Tout le monde parle français, ils se battent énormément pour que le français reste une langue extrêmement importante dans le pays. D'ailleurs, tous les gens sont bilingues, et les gens qui ne sont pas bilingues anglais-français sont extrêmement mal vus. Donc, c'est quelque chose de très important, ils défendent énormément le français, et c'est sûr que du côté ouest du Canada, c'est beaucoup plus anglophone. Donc, c'est comme si le Canada était réellement coupé en deux.
Ouais. Donc, ah oui, c'est la sensation que vous avez.
Oui, vraiment.
Mais alors, effectivement, Vancouver a la réputation d'être une très belle ville, et je crois que c'est une des villes qui est classée dans les dix villes où il fait le meilleur vivre. Mais la nature canadienne, ce que vous en voyez, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'être complètement dépaysé par rapport à un département comme bien boisé comme la Dordogne? Évidemment, il y a plus de résineux, j'imagine.
Dépaysé au niveau des paysages, non, pas tellement, c'est vrai, parce qu'effectivement, le Canada, c'est un pays qui est très vaste, qui est très ouvert, donc beaucoup de paysages, beaucoup de forêts, et c'est vrai qu'on retrouve facilement ça dans le Périgord, donc c'est au moins quelque chose qui me rappelle la maison, donc ça, c'est très agréable. Donc, très ouvert, extrêmement vert, beaucoup de parcs nationaux. Donc la nature a vraiment une place extrêmement importante là-bas, donc c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc pas trop dépaysé d'un plan des paysages. Oui, bien sûr, il y a plus de montagnes, il y a plus de résineux, mais au niveau de la nature elle-même, on peut retrouver à peu près la même chose ici, donc ça fait vraiment du bien.
Montréal, c'est quand même une grande ville. Est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité dans une ville comme ça ?
J'ai envie de dire, Montréal reste quand même une grande ville, et une grande ville cosmopolite comme peut être New York ou Paris, donc il faut toujours être prudent, particulièrement la nuit. Donc je ne me sens pas particulièrement en danger, même quand je rentre très tard le soir de l'école ou que je peux sortir en ville. Je ne me sens pas particulièrement en danger, on reste toujours prudent, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais en plus, en ce qui nous concerne, est beaucoup dans un quartier étudiant, il y a 4 universités sur notre campus, donc on reste vraiment dans la ville étudiante, dans le campus étudiant, donc on ne se sent pas en danger. Après, ça reste une ville cosmopolite. On croise toutes sortes d'individus, pas toujours très déséquilibrés. Donc il faut rester prudent, mais je pense pas qu'il faut avoir particulièrement peur.
Le rapport à la France, il est comment vous l'avez perçu, puisque il y a une espèce de syndrome d'amour-haine, hein, qui existe bien et qui est bien connu. Est-ce que ça persiste, ça, ou est-ce que ça a été un petit peu, ça s'est atténué au fil des années, parce qu'il y a un moment où c'était un petit peu tendu quand même.
Ça persiste beaucoup au niveau de la langue, par exemple. La langue, ils considèrent que eux, ils ont le vrai français qui n'a pas évolué, qui est le plus proche du vrai français de base, et que nous, en tant que Français de France, on a un français qui s'est modernisé,
oui,
et qu'on est plus loin.
Altéré, dénaturé.
Exactement. Donc, les Québécois parleraient apparemment le bon français, le vrai français, et nous, on serait une dérivation du français, donc on serait moins bien. Donc, ouais. Au niveau du reste de la culture, ils sont beaucoup renfermés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas du tout envie de dénaturer ni leur culture, ni leur manière de vivre, qu'ils considèrent comme étant très traditionnelle, alors que nous, on serait une dépravation un peu de la langue et de la culture française.
Ouais. Mais il n'y a pas seulement, l'aspect linguistique, il y a l'aspect un petit peu aussi, ce qui était reproché aux Français par les Canadiens, c'est que les Français aient un comportement un peu supérieur. Et, est-ce que ça se sent
Ça se sent parfois. Ça se sent parfois, surtout au début, quand on se présente et qu'on explique d'où l'on vient. De toute façon, c'est les premières questions. C'est « Bonjour, comment tu t'appelles, d'où tu viens ?» C'est vraiment les deux premières questions. Donc, quand on dit « Moi, je suis de Québec, toi, t'es de France. » Ah, oui, d'accord. Il y a toujours une petite fraction de seconde où on fait d'accord, donc on parle la même langue, mais on n'est quand même pas du même pays. Donc c'est vrai qu'on peut se sentir encore un peu des tensions, particulièrement dans la génération de mes parents ou de mes grands-parents.
Oui.
Avec nous, un peu moins, sûrement parce que, pareil, on est dans un campus très ouvert, très cosmopolite, donc il faut qu'on apprenne tout ça sans
temps. Ouais.
Exactement. Mais oui, on peut sentir encore une vieille tension qui réside, même si on ne sait pas exactement pourquoi, vu que ce n'est plus notre génération.
Alors, à propos de la langue et de la spécificité du vieux langage, est-ce que vous avez récolté quelques expressions québécoises particulièrement savoureuses et que vous pourriez...
Des expressions québécoises, ils ont ce que j'appelle des tics de langage.
Du genre tabernacle.
Tabernacle, par exemple. Ils ont des petits tics de langage, par exemple, dans une phrase, au lieu de dire « tu sais », ils vont dire « tsé ». Ils vont beaucoup faire de contractions au niveau des mots.
Ouais.
Donc on a celui-là.
C'est peut-être l'influence des États-Unis, ça. Alors.
Exactement. Beaucoup, ouais. Même si ils rejettent et disent complètement que c'est les États-Unis qui auraient copié du coup sur eux. Mais beaucoup d'influence des États-Unis, aussi le fait qu'ils utilisent beaucoup de mots anglais dans leurs phrases,
ouais.
Même sans parfois s'en apercevoir. Donc c'est des petites choses au quotidien, des expressions. J'ai pas eu la sensation qu'il y avait beaucoup d'expressions que je ne comprenais pas, par exemple. Donc, c'est plein de petits mots dans le langage. Ils vont beaucoup raccourcir les phrases, par exemple. Et ils ont, bien sûr, un vrai accent québécois qui, au début, est vraiment, vraiment difficile à comprendre.
Ouais.
Donc, j'ai eu énormément de mal, surtout quand c'est des professeurs. Donc, j'ai vraiment, par définition, besoin de les comprendre. Et au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à comprendre les professeurs qui parlaient québécois. Après, on finit par s'y faire parce qu'on s'habitue à tout. Mais au début, l'accent était quelque chose d'assez compliqué à gérer.
Donc vous avez appris à parler le français québécois ?
Oui, ou du moins à le comprendre pour l'instant.
Vous êtes capable de faire des imitations
Je fais extrêmement mal les imitations et beaucoup de gens me disent « c'est bien, t'as pas pris l'accent québécois ». Je fais « oui, je fais très attention ».
Mais c'est pas facile hein, d'imiter l'accent québécois.
Pas du tout. Il y en a qui arrivent mieux que d'autres, oui. Je pense quand même.
Oui. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos autres passions, celles dont nous avions parlé quand on a fait parler de la Tanzanie ? Est-ce que vous faites toujours du cheval ? Est-ce que vous avez pu continuer à en faire au Canada ?
En ce qui concerne l'équitation, non, je l'ai complètement mis entre parenthèses parce que le centre le plus proche est à 45 minutes de trajet, oui. Donc ça me ferait 1h30 de trajet. Plus le temps que j'ai passé éventuellement là-bas, et c'est tout simplement un temps que je ne peux pas me permettre de perdre en transport en commun. Par contre, en ce qui concerne le piano, j'ai beaucoup de chance parce que dans la famille, ils ont un piano et ils sont tous musiciens. Et un de mes colocataires a l'oreille absolue, donc pareil, il joue énormément. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux entretenir, avec lequel on peut tout jouer, on en parle beaucoup. Quelqu'un va se mettre au piano ou à la guitare ou à la batterie, on va pouvoir vraiment lancer quelque chose, une ambiance ou un rythme particulier. Donc
ça, ça fait partie, c'est un des éléments de votre vie communautaire dans la colocation.
Ça, exactement, c'est bien, et ça fait pareil beaucoup de bien. Oui. Donc échange.
Le fait d'être obligé de mettre le cheval entre parenthèses, ça n'a pas été trop difficile? Parce que c'est quand même un pays de cheval, le Canada.
C'est vrai, c'est vraiment un pays de cheval, mais c'est la vie universitaire. Donc je pense que pendant ma vie universitaire, je peux peut-être mettre des choses auxquelles je suis habituée depuis toujours entre parenthèses et essayer d'autres choses auxquelles je ne suis pas encore habituée. C'est aussi ça, grandir, donc peut-être essayer des choses différentes, voir qu'est-ce qui me plaît autre que ce que je connais déjà. Donc je ne vais pas abandonner l'équitation, ça c'est sûr. Je reprendrai cette passion-là quand je serai plus âgée, que je serai installée, que j'aurai un métier, quelque chose, une vie plus stable. Mmh. Mais pour l'instant, où je bouge énormément, où je vais peut-être partir en échange, je ne sais pas encore, je ne peux pas. Je peux simplement
Puisque
pas.
Vous parlez de l'avenir, vous nous disiez tout à l'heure qu'une partie des étudiants français qui fréquentent votre école sont attirés par le Canada. Pas seulement par les études, mais peut-être pour y rester et exercer leur métier. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous envisagez une expatriation professionnelle
Absolument, vraiment. Je pense vraiment que je vais rester là-bas, tout simplement parce que les opportunités de travail sont beaucoup plus grandes.
Oui.
C'est un pays qui est beaucoup plus jeune, qui est extrêmement vaste. Donc, par définition, toute nouvelle idée est bonne à prendre et bonne à essayer. Et tout simplement, c'est le principe même où si jamais on quitte son job le matin, on peut en retrouver un autre l'après-midi, qui m'intéresse beaucoup. Donc
et ça, vous le percevez dans la vie quotidienne, ce dynamisme économique de pays neuf par rapport à un pays comme le nôtre, un petit peu ankylosé.
Ça, c'est sûr.
Et en perte de vitesse.
C'est sûr. On peut parler à n'importe qui, que ce soit au professeur, que ce soit à des chauffeurs, que ce soit à des personnes qui travaillent dans des magasins. Ils ont tous fait au minimum 3-4 métiers et ils ont beaucoup changé. Même si ce n'était pas du tout leurs études de base, ils sont tous renouvelés, ils ont tous changé de domaine à un moment donné. Donc il y a vraiment une possibilité de changer de voie qui est beaucoup plus grande que chez nous. Alors que chez nous, la plupart du temps, quand tu fais des études, tu as un diplôme et tu restes dans ta voie. Et donc ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup, surtout pour les jeunes qui, la plupart du temps, ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc ça attire.
Alors, je ne sais pas si on va garder ces passages qui sont un petit peu désespérants. Je crois qu'ils reflètent tout l'intérêt que vous portez à votre expérience et puis aussi toute l'acuité de votre regard. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
De votre collaboration, de votre participation à cette émission et de nous avoir appris autant de choses.
Merci beaucoup.
Et je vous souhaite de bonnes vacances.
Merci à vous aussi. Bonne continuation.
Merci. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.